Il est 12h45 sur France Culture. On retrouve Maëlys Bessery pour la grande table d'été.
Merci Nicolas, on vous retrouve à 18h. Dernier jour de notre semaine qui s'achève sur une note de musique à 13h30, la compositrice invitée du festival de quatuor à cordes du Luberon, Camille Pépin, sera parmi nous. Mais avant cela, nous allons parler du documentaire de création et de ses auteurs. Dimanche s'ouvre la 31e édition des états généraux du film documentaire Sous le ciel de Lussas, qui programme des films qui ont pour caractéristique commune la singularité des sujets et de la façon de les filmer, de retranscrire un réel mouvant et protéiforme. Parmi eux, Vacancy d'Alexandra Candy-Longuet, qui raconte le quotidien d'habitants de motels dans la ville californienne de Fresno, un entre-deux-vies qui parfois se prolonge. Au programme de Lussas également, Le Village de Claire Simon, une série qui a pour objet Lussas elle-même, son festival, les habitants des deux rives et l'ambition de redonner sa place au documentaire d'auteur. Claire Simon et Alexandra Candy-Longuet sont aujourd'hui nos invités. Bienvenue à tous sur France Culture.
Grande table d'été, Maëlys Bessery.
Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors d'abord, Claire Simon, Le Village, cette série documentaire et cette idée de mise en abîme, de filmer Lussas à Lussas et de diffuser justement cette série documentaire au festival avant qu'elle ne se retrouve à la télévision et sur la plateforme.
Oui, je l'ai pas exactement pensé comme une mise en abîme. C'est un village moderne, Lussas, dans le sens où il y a à la fois des agriculteurs qui travaillent et cette chose qui est très singulière, c'est qu'il y a 40 personnes qui vivent à l'année, parce que on ne voit que le festival, qui est la partie
Immergée de l'iceberg.
Oui, mais il y a depuis beaucoup d'années tous ces gens qui travaillent à Lussas autour du documentaire. Et quand j'ai appris que ces gens-là avaient dans l'intention de créer une plateforme sur Internet qu'ils appelaient plus ou moins comme une télé, c'est-à-dire dans l'idée non seulement de diffuser, mais peut-être un jour de produire, et que de l'autre côté, il y avait aussi le projet de créer un immense bâtiment pour que toute l'activité du documentaire s'y retrouve, c'est-à-dire toute l'activité, c'est-à-dire l'université, la production, la bibliothèque, la vidéothèque qui est la plus grande du monde.
Oui, parce qu'ils conservent des films à chaque festival, voilà. Ils conservent une copie de chaque film.
Voilà, mais
c'est devenu une sorte de banque de données immense.
Oui, que personne d'autre n'a dans le monde.
En tout cas, il y avait l'idée de filmer, Claire Simon, tout Lussas, à savoir rive gauche et rive droite,
voilà,
c'est ce qui est raconté.
C'est ça.
La vie des paysans, des agriculteurs, des villageois,
oui.
Et la vie des imaginaires, c'est comme ça qu'on les appelle.
Oui, c'est ça. C'est un peu un sobriquet, quoi, les imaginaires. Voilà. Et d'ailleurs, le bâtiment s'appelle l'imaginaire.
Alors, on va écouter la bande-annonce de ce village qui en dit long, justement, sur le propos.
Les films qu'on va montrer sur la plateforme sont une vision du monde. On les voit ici à Lussas, on les voit dans beaucoup de festivals, mais on ne les voit pas autrement. Donc, on va les montrer.
En 2018, on aura un bâtiment avec deux salles de mixage, une salle d'étalonnage, 10 salles de montage et un studio d'enregistrement qui nous permettront vraiment de fonctionner comme une télé. Et un diffuseur différent qui propose des choses différentes. Et puis, un outil vraiment de coproduction pour faire en sorte que des films d'auteurs continuent à se faire.
J'ai un comptable, responsable technique, j'ai du marketing et communication.
Une programmation, c'est quand même un gros travail qu'il va falloir faire, mais on n'est pas payé par Tank TV pour le faire à plat temps.
Yann, elle serait à temps plein.
Ouais. Il y a 18 programmateurs, il faut quelqu'un qui puisse... Tu vois, un rédac-chef, de faire une cohérence.
Vous voulez absolument avoir un chef.
Le travail qu'on va faire sur festival, je vais pas vous encadrer là, on va discuter.
Non, mais tu vas encadrer le travail.
Non, je vais suivre le travail.
Ah bah pas seulement, parce que concrètement, c'est pas nous qui allons faire des partenariats avec les festivals, c'est pas nous qui allons faire...
Je vais suivre, mais il faut pas que... La structure détienne l'entièreté du pouvoir.
Elles sont bien, hein, quand même. Elles viennent d'être cueillies là. Hein.
Là, il y avait à peu près 300 cerisiers et là, il y avait 6000 poireaux.
Globalement, on va y arriver.
Claire Simon, on voit que à travers justement ce portrait, alors un peu mosaïque, on va retrouver, et c'est là la particularité peut-être de cette série-là, le village qui s'inscrit aussi dans le cadre de ce cinéma, qui est celui qui est présenté au Festival de Lucas, c'est-à-dire de filmer aussi le réel, la réalité de ce village, sans nécessairement une sorte d'intrigue qui va tirer la série, mais autour de leur vie. Et malgré tout, on voit que ces villas, elles sont, il y a un côté dramaturgique qui se dégage automatiquement.
Oui, bah, c'est-à-dire que tous les scénaristes de série vous diront qu'un village, par définition, c'est un lieu parfait pour une série, quoi. C'est-à-dire que c'est un microcosme où il y a beaucoup de personnages. Et là, il se trouve que, enfin, il y a une intrigue qui est, est-ce qu'ils vont arriver à faire cette plateforme? Est-ce que ce bâtiment va être construit? Et est-ce que, quelle est la différence entre, disons, une œuvre virtuelle, qui est la plateforme, et un bâtiment en béton, quoi.
C'est aussi la concrétisation d'un idéal autour du film, voilà, documentaire, du fait de lui donner plus de place, d'un film qu'ils estiment boudé par la télévision.
Oui, mais c'est aussi tout simplement le fait de filmer notre époque, c'est-à-dire il faut savoir que l'audiovisuel en France, c'est 3 fois plus que l'automobile en chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que, si vous voulez, c'est un monde social, c'est un territoire avec des tas de gens qui travaillent, etc., des rapports de force, des rapports sociaux, etc. Et donc là, dans le village, c'était le moyen de le voir. J'ai fait un autre film sur l'entrée, l'examen d'entrée à la FEMIS. C'est pas du tout des films de promotion pour le cinéma, ou pour soit l'école, soit l'USAS, mais c'est plutôt dans le souci de raconter notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Quand Nanni Moretti filme Mia Madre, et quand François Truffaut filme La Nuit Américaine, voilà, on ne lui dit pas qu'il... Enfin, ce sont des sujets classiques de la fiction, de filmer aussi le cinéma comme un travail. Voilà, moi j'ai essayé de transposer ça un tout petit peu dans le documentaire.
Alors Alexandra Candilonguet, vous, dans Vacancy, il s'agit aussi d'un lieu, mais d'un lieu plus ou moins mouvant, puisque c'est la question des motels. D'ailleurs, ce titre de Vacancy fait référence à ces chambres d'hôtel.
Oui, c'est ça. Vacancy, c'est le premier signe que vous voyez sur le bord des routes, le néon qui clignote, vacancy, no vacancy. Après, le mot vacancy ou la vacance...
La vacuité, la vacance...
Vacuité, voilà, évoque tout un tas d'idées qui sont liées à l'univers du motel, et notamment à cet état de transformation, quoi.
Alors, il y a 5 personnages, donc 2 qui vont être des personnages majeurs, Beverly et Manny, qui vont être les fil conducteur qui raconte, je parlais d'entre-deux vies, en tout cas cet interstice après avoir perdu un logement et perdu une première vie, et dans l'espoir d'en retrouver une autre.
Voilà, le film s'intéresse à ces personnages à un endroit particulier de leur vie, et dans ce lieu qu'est le motel, qui est supposément un lieu d'arrêt dans lequel on viendrait se reconstruire, le temps de faire une pause, et qui en fait se transforme en un cercle vicieux et un endroit dont on est prisonnier, puisque ça coûte très très cher de vivre dans un motel, et c'est très difficile de retomber sur ses pattes. Donc ça retrace en effet la vie de plusieurs de ces personnages, qui ont chacun subi des catastrophes et qui ont des crises personnelles, des crises individuelles à l'intérieur d'un pays en crise lui-même, une crise économique.
Alors, de même qu'à Lucas, on voit ce lieu en construction et les lieux qui perdurent, hein, notamment des terres qui sont cultivées depuis des générations. Là, dans ce lieu-là, on voit que finalement, l'état de précarité devient un peu permanent. Il y a cette idée du lieu, de ce qu'il incarne, et de l'imaginaire aussi qui convoque avec lui notamment tout ce passé. Alors, à la fois celui du motel, mais il y a aussi ce storage, ce lieu de stockage de Beverly. Peut-être vous pouvez nous expliquer ça, Alexandra Candilonguet.
Oui, alors chacun des personnages est aussi un endroit de sa vie où il est en capacité de faire le bilan et de ce qu'il a perdu. Et chacun d'entre eux est tenté par les fantômes du passé qui reviennent sporadiquement. Il faut, on est dans la question de la survie quotidienne et de se débrouiller, mais dès que la nuit tombe, en fait, les fantômes du passé reviennent. Et dans le cas précis de Beverly, en fait, à la mort de son mari, elle a complètement sombré et sombré dans la drogue, et de là elle a perdu sa maison, la garde de son fils et son lien encore avec cette vie passée. C'est toutes ces affaires qu'elle a conservées dans un box, dans un storage, et donc il y a l'intégralité de sa vie d'avant. Et c'est ce lien avec ce passé, et le fait de le garder est très important, parce que si elle renonce, ça veut dire que dans un sens elle accepte complètement la vie dans laquelle elle est aujourd'hui, et l'idée qu'il n'y aura pas d'après, quoi.
On va écouter cet extrait de Beverly. C'est un extrait de Vacancy, et donc elle se rend au box où sont entreposées ses affaires.
I moved in here, it was only going to be for 1 month. And we're talking years later, I'm still here. Moved in here after my husband passed away, I lost the house, ended up in storage. I remember the day I moved in here, it was raining. Big U-Haul. Three-bedroom apartment inside a storage unit.
Avec Sandra Candy-Longuet, on entend dans le travail sonore ce que raconte aussi le film, et c'est peut-être pour ça qu'il s'inscrit dans ce que défend le festival de l'USAS, à savoir une manière de filmer différente à travers notamment ces personnages, mais aussi leurs objets, leur quotidien, qui en dit long en fait sur des conditions sociales d'existence dans cette Amérique classée Fresno, en Californie.
Voilà, le film se passe dans deux lieux. En fait, avec Beverly, on est à Fresno, dans le nord de la Californie, et avec les hommes, on est à Amboy, à la frontière complètement à l'est de la Californie. Et en fait, on s'intéresse aux objets restants dans ce film, parce que dans le fond, il y en a peu. Donc chacun ayant quitté sa vie d'avant, ayant tout perdu, il reste peut-être dans le cas de Manny, il lui reste une seule photo de sa vie d'avant, quoi. Donc de là, une parole peut naître et le souvenir peut naître.
Alors il y a aussi ce grand pêle-mêle de photos que va construire Beverly, cette importance accordée justement aux objets et au quotidien. Claire Simon, vous êtes concentrée sur les figures d'agriculteurs aussi qui travaillent dans le village. Alors ceux qui sont les héritiers de lignées d'agriculteurs, justement, alors il y a les vignerons d'un côté, ceux qui cultivent les pommes et les poires, et puis les nouveaux venus qui arrivent avec des idées et qui sont les innovateurs du lieu.
Oui, mais c'est-à-dire que l'agriculture, c'est comme le cinéma ou n'importe quel. Il y a des directions différentes. On peut choisir de produire énormément et où on peut faire du vin nature, où on peut faire des fruits biologiques, enfin, ce qui est plus difficile techniquement. Mais on voit que les directions avec les générations sont différentes, et on a un peu l'impression que les gens qui font du vin nature, c'est un peu comme des documentaristes, quoi. Ils prennent
des documentaristes du réel, des documentaristes type l'USAS, pas n'importe quel documentariste. C'est d'ailleurs un des sujets qui est traité. Qu'est-ce qu'on appelle documentaire aujourd'hui? Est-ce que c'est le documentaire télé tel qu'il peut exister d'ailleurs sous plusieurs formes aussi selon les chaînes de diffusion, ou est-ce que c'est une manière, par exemple, de faire du cinéma pour toutes les deux qui se passe sans commentaire?
Oui, bah c'est une manière de faire du cinéma, point. C'est pas tellement la question du commentaire, c'est que c'est plutôt comme le vin nature, c'est-à-dire que on ne met aucun, on voit que les vignerons, ils ne savent pas comment ça va évoluer, et ils guettent continuellement comment le vin bouge et chacune de leurs cuvées, etc. Et donc effectivement, les cinéastes qui font du documentaire, au lieu d'écrire des scénarios à l'avance, regarde comment le film se fait au fur et à mesure, mais les questions de fond sont les mêmes. Moi, quand je vous entends parler, je vois déjà les films de fiction qui se sont passés là et comment on peut avoir une nouvelle vision grâce au documentaire qui serait peut-être plus innovante, plus libre, plus une autre manière d'approcher la narration, si vous voulez. Le documentaire, je pense, de comme on dit, de création, est une autre manière d'envisager la narration.
Alors, notamment dans la forme, peut-être qu'on pourrait parler de ça, il y a des scènes poétiques qui se dégagent par elles-mêmes, qui sont des scènes comme de pure fiction. Je pense au village, à cette scène devant une boulangerie qui va ouvrir. Et puis, on a le sentiment d'avoir un film muet qui se déroule sous les yeux. On attend, puis petit à petit, la boulangerie s'ouvre et la personne qui attend fait les 100 pas et va pouvoir enfin aller acheter son pain. Il y a des scènes qui sont des références pures à la fiction. Claire Simon, non voulu peut-être, ou choisi,
si,
en tout cas, au
7h moins le quart, la boulangerie ouvre à 7h, j'ai installé ma caméra, et il y a cette dame formidable qui arrive excédée que ça ne soit pas déjà ouvert à 7h moins 5. Quoi. Et à ce moment-là, le rideau se lève, et voilà, et c'est le début de la vie, et la boulangère lui dit « Ah non, il n'y a pas de chaussons aux pommes aujourd'hui ».
Et c'est presque un plan lumière, hein. On attend que la scène se finisse dans ce même cadre.
Oui, oui. Alexandra. Et les objets, vous parliez du passé, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment le passé surgit tout le temps à l'intérieur de la vraie vie des gens, et non pas de la manière dont on va le chercher.
Alors là, il y a l'occasion, c'est la carte grise par exemple, voilà. Hein. On va chercher la carte grise de la voiture que l'on vend. Voilà. Là, c'est un des personnages principaux. C'est Jean-Marie Barbe qui vend sa voiture. Il va chercher sa carte grise. Expliquez-nous ce qui se passe. Là, il trouve toute sa vie.
Et chaque année, il devait sortir cette voiture du hangar qui devient une salle de cinéma et où la ministre va venir, etc. Et enfin, quelqu'un veut bien l'acheter. Et là, la carte grise a disparu. Et donc, on cherche partout et on retrouve les journaux des années 70. On retrouve des photos et on retrouve le testament de la grand-mère qui, de manière totalement injuste, le choisit que ce soit lui l'héritier principal, celui à qui tout doit être donné pour qu'il fasse quelque chose. Et c'est juste comme ça que ça arrive vraiment. Et donc là, il y a quelque chose sur le plan de mon plaisir, moi, de réalisatrice, où quelque chose arrive que j'ai attendu pendant si longtemps. Un scénariste aurait mis les raisons du passé au deuxième épisode ou au troisième épisode. Moi, j'ai dû attendre le huitième épisode pour que ça arrive vraiment. Et c'était, voilà, c'est un grand bonheur narratif. Quoi.
Alexandra Candilonguet, vous, les objets dans votre film, alors que ce soit ceux de Beverly ou ceux de Manny ou d'autres, racontent aussi ce qui n'a pas besoin de se dire. Je pense justement au crack que l'on voit représenté uniquement par la petite pipe de verre qui sert à le fumer. Il y a justement cette histoire, ce que racontent les objets, c'est ce plaisir du langage visuel.
Ce que disait Claire Simon, c'est-à-dire que le film, on ne l'écrit pas à l'avance, il n'est pas prémédité. Et je crois que la forme du film, elle naît de la rencontre, elle naît de ce qui se passe avec les protagonistes. Et là, en l'occurrence, je suis face à des gens qui vivent dans des conditions très difficiles, en particulier Beverly, mais qui pour autant est quelqu'un d'extrêmement digne, d'extrêmement solaire et d'extrêmement pudique. Donc en fait, je trouverais ça extrêmement malvenu que le film ne raconte pas ça. Donc là, on trouve des moyens pour que les choses, elles soient suggérées de la même manière que Beverly le suggère dans sa vie. Elle parle jamais de ses clients, elle nomme ses amis, ou elle a des manières détournées, métaphoriques de dire les choses. Et donc le film va suggérer les choses.
On la suit le long des trottoirs, on comprend l'activité de prostitution, et en même temps, on garde effectivement cette distance qui en fait est la sienne, que vous avez reprise.
Voilà, moi, à cet endroit, je pense que le film doit épouser ce que elle me donne. Donc ça, c'est le parti pris. Et après, faut aussi faire confiance à l'intelligence du spectateur. Je pense que le film est une succession de séquences et in fine, le spectateur fait son chemin de lui-même.
Mais alors, comment dans une économie du cinéma où on fait des demandes de bourse en écrivant justement des notes d'intention extrêmement extrêmement longues, extrêmement séquencées. Comment est-ce qu'on fait pour mener des projets de films comme ça sans écrire le scénario à l'avance? Alexandra Candilongué, c'est quoi l'histoire de Vacancy?
Il y a la jeunesse du film elle-même, et après, si c'est la question d'écrire des dossiers, il y a des études de la SCAM qui s'intéressent à de quoi vivent les auteurs de documentaires, et certains auteurs se décrivent comme dossiéristes. ça fait partie de réellement, si vous voulez être produit et si vous voulez jouer le jeu du système, ce que vous faites, dans un premier temps, parce que ça aussi implique que vous êtes reconnu. Si vous êtes validé par des commissions et que après vous aurez plus de chances d'avoir éventuellement des coproducteurs, des diffuseurs, parce que on vous a fait confiance, etc. Donc en fait il y a un art et une manière d'écrire des dossiers et voilà, et en même temps sans en passant un accord tacite avec la commission qui est de dire ce ne sera pas le film que vous allez voir. Il faut que vous compreniez ça.
Oui, parce que là, Claire Simon, d'ailleurs, vous vous intéressez particulièrement aux questions économiques, aux modes de financement. C'est d'ailleurs le côté concret, abstrait du film. Hein. Vous filmez beaucoup de réunions de budget, puisqu'il y a la question de la mise en place de cette plateforme et ces projets que doivent mener les membres de l'équipe. Et les questions financières, budgétaires, elles sont omniprésentes et elles représentent finalement les coulisses de ce monde de documentaire et de ce monde du cinéma.
Oui, et bien sûr, et c'est surtout la langue, l'argent et la langue qui écrit le scénario tout le temps.
La langue administrative, vous voulez dire la langue économique?
Les chiffres.
Les chiffres.
Les chiffres. C'est autour des chiffres que tout le monde se mesure. Continuellement, bien entendu. C'est vrai que c'est, disons que le cinéma documentaire est comme un idéal du cinéma, puisque c'est comme la peinture, c'est qu'il s'agirait d'aller, comme vous l'avez dit, à la rencontre de la vie et d'en faire quelque chose directement, sans passer par un scénario, sans passer par une écriture préalable. Et c'est cette difficulté qui est très grande dans la production. Mais pas seulement, je dirais, dans la production, elle est aussi dans la distribution. Il faut que les spectateurs qui, une fois qu'ils sont devant les documentaires, reconnaissent que c'est une vie qu'ils connaissent ou que c'est une légende de la vie qui les passionne. Ils ont toujours un peu peur que ça soit très pédagogique ou promotionnel, etc. Et que ça ne soit pas du côté du plaisir et de l'art que les films se font. Donc c'est vrai que c'est un peu un combat de fou de vouloir faire des films documentaires.
Alors il faut dire qu'il y a un enjeu particulier. On va écouter d'ailleurs Jean-Mire Ibarbe en parler lui-même. C'est qu'un certain nombre de films documentaires d'auteurs ne sont pas tellement diffusés. Ils existent parfois à l'occasion d'un festival ou deux. Et puis ensuite, il n'y a même pas moyen de les retrouver. Alors on va écouter cet extrait du village qui est à la fois pratique et pédagogique.
Pour l'instant, à la direction éditoriale, c'est-à-dire Pascal et moi, on a pour mission de poser des questions, voire d'amener des initiatives à laquelle les uns et les autres vont réagir et on va se dire oui, non, on y va, on n'y va pas, sachant que la plupart des films qu'on va montrer sont des films morts. C'est-à-dire que les deux tiers des films...
Non, mais... C'est sympa. Mais non, c'est beau comme nom de
c'est des films
ça,
qui ont été montrés en festival, qui sont accessoirement montrés une fois par une association, mais qui ne vivent pas. Ils sont sur les étagères. Donc l'idée, c'est si on leur permet de ressusciter...
Ah.
En fait, nous sommes des inventeurs, c'est-à-dire des gens qui découvrent quelque chose qui existe, mais qui était en sommeil, et le fait de le découvrir lui redonne la vie. Donc, puisque ces films ont été revivifiés pendant 2 mois, l'idée c'est de trouver les moyens pour qu'ils puissent après être consultés, achetés, acquis. Parce qu'avec nous, ils sont consultables, mais ils ne sont pas téléchargeables. Donc notre souci, c'est il y a une première vie avant Tunk, il y a une deuxième vie avec Tunk, et Tunk assure ou aura le souci de la troisième vie.
Claire Simon, expliquez-nous. Un Tung, c'est le nom de la plateforme qui existe depuis. Et donc, à travers ces films morts que l'on ressuscite, c'est à la fois l'histoire de la trajectoire d'un film, l'histoire aussi de David et Goliath, d'un collectif, d'une coopérative contre un système.
Oui, c'est ça.
Au-delà d'eux.
Bien sûr, c'est ça. C'est aussi le désir de que tout le monde puisse voir... pour 5 euros par mois, l'immensité des directions artistiques des films documentaires. Mais c'est vrai que Tank est conçu comme une... Ça s'appelle une plateforme SVOD, donc elle est éditorialisée, donc les films sont choisis, on est guidés, etc. C'est pas du tout comme une banque de données où on irait chercher un film qu'on connaît déjà. Et voilà, je pense qu'il y a toute une culture qui est pour l'instant, comme dit Jean-Marie, un peu enterrée et qu'il faut qu'elle puisse être accessible à tous.
Alors, quand on parle de résurrection, vous, c'est aussi une thématique qui traverse plutôt vos personnages, Alexandra Candilonguet. Dans Vacancy, il y a ce personnage qui a une double identité. Sa double identité, c'est celle d'être aussi Big Daddy. Peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots.
Oui, alors, faire un film sur les motels, c'est aussi se coltiner un imaginaire qui nous irrigue déjà.
Par
c'est
le cinéma, par la littérature américaine.
Bagdad Café, c'est Lolita, le motel est partout, mais il n'est jamais au centre du film. Il est tout le temps là, donc je ne vais pas faire l'impasse de pas me coltiner le cliché. On joue avec dans le film. Et par ailleurs, en effet, les personnages à certains endroits peuvent aussi être des topos du cinéma. C'est complètement le cas de Manny, qui est le gangster repenti. Donc couvert de tatouages, avec un physique très impressionnant. Et voilà, c'est un ancien très gros dealer de Riverside qui opérait jusque en Floride, qui s'est fait rattraper par la justice, qui est parti en cavale pendant une dizaine d'années au Mexique. Et quand il est revenu, il n'avait plus rien.
Il avait tout perdu, sa femme, la
sa maison, toute sa fortune, et le voilà errant. De retour aux États-Unis.
Alors c'est aussi l'imaginaire du road trip, même s'il n'est pas mis en scène dans votre film Vacancy. On l'imagine en creux, ce road trip. En tout cas, cette idée de précarité, d'instabilité. Et en ce sens-là, les personnages sont bien plus qu'eux-mêmes. Ils racontent aussi cette espèce de rise and fall américain, c'est-à-dire qu'ils sont tombés alors de par la dépendance, l'addiction ou par la justice.
Bah ça, de nouveau, c'est joué aussi avec un cliché, mais qui est une réalité américaine. C'est-à-dire que y a le rêve américain et puis l'envers du rêve américain qui est on peut tomber très vite et très bas. Et il n'y a pas de filet de sécurité. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Et c'est aussi un imaginaire très américain que cette idée de rédemption. Mais il y a un livre de Bruce Begou qui parle des modèles qui s'appelle « Lieu commun », qui est magnifique. Et il décrit le motel comme un endroit où on est en transition. C'est un lieu pour se réinventer. Il dit un lieu où les gens sont en instance de, donc sur le devenir de quelque chose. Mais finalement, en fait, ils sont arrêtés dans ce mouvement.
Alors parfois pour des années, hein, c'est le cas de Beverly qui est depuis 7 ans, depuis 15 ans dans les motels. On se pose la question d'ailleurs de ce que le motel fait à leur vie aussi, puisque finalement le paiement quotidien qui est généré par le motel, peut-être ça vous pouvez nous en dire un mot, va entraîner une recrudescence d'activités parfois illégales ou dangereuses.
Alors, le motel, c'est vraiment un piège. C'est ça qui est intéressant dans le motel, c'est que c'est un lieu paradoxal. Au départ, c'est un lieu qu'on crée dans une volonté de standardisation, d'aseptisation, et puis qui va créer de la marginalité lui-même et des activités illicites. Et aujourd'hui, le motel, c'est vraiment un piège. On vient pour faire une pause, le temps de se reconstruire, de trouver un logement, de trouver autre chose. Et en fait, la vie au motel coûte tellement cher, parce que bah, dans le cas de Beverly, c'est au moins 45 dollars juste sa nuit au motel, mais après il y a tous les frais. Elle n'a pas de voiture, donc se déplacer est un vrai problème. Il n'y a pas de cuisine, donc elle est obligée d'acheter à manger, ce qui coûte forcément plus cher. Et tout un tas de dépenses comme ça, qui finalement sont beaucoup plus élevées que ce que vous paieriez en loyer en vivant dans votre propre appartement.
D'ailleurs, Les se fait virer de sa chambre d'hôtel, elle va l'accueillir quelques temps, pas longtemps.
Elle l'accueille un temps, mais ça devient problématique pour elle aussi, parce que sa chambre, c'est son lieu de travail. Donc, si elle héberge quelqu'un d'autre dans sa propre chambre, ça crée des problèmes pour elle. Et en fait, c'est un endroit où on est incroyablement solitaire, parce que sa propre survie en dépend. Donc, elle est obligée de tisser des relations, disons, d'intérêt, pour pas être complètement isolée. Mais c'est impossible de se lier vraiment d'amitié avec quelqu'un et de devenir complètement interdépendant parce que voilà, on risque de c'est plus difficile de survivre à deux que seul, quoi.
Alors on est dans un film documentaire et en même temps ce sont vraiment des personnages qui apparaissent, ils ont été choisis aussi de par la particularité, vous parliez de Beverly, de son discours à la fois solaire tout en suggestion, il y a une force fictionnelle de ces personnages réels.
Bah, chacun d'entre eux, ça a été une rencontre extrêmement forte.
Qui s'est faite comment ?
Alors, c'est un long parcours de repérage. Où je suis partie, j'avais décidé de partir en Californie pour différentes raisons. Et en fait, j'avais un contact d'un défenseur des sans-abri à Fresno, qui m'a présenté un ancien sans-abri, qui m'a dit peut-être tu devrais aller au palace. Et puis voilà. Et puis il m'avait parlé aussi d'une femme qui s'appelait Beverly, mais je la trouvais pas. Et donc je suis restée plusieurs semaines à Fresno. J'ai fait des allers-retours parce que c'est un lieu qui est extrêmement oppressant. Donc y vivre au quotidien, c'était dur. Et puis j'ai fini par rencontrer Beverly. Et là il y a quelque chose de l'ordre de l'épiphanie, quoi. Quand je l'ai vue, elle est complètement incroyable. Et puis elle a un truc, elle a Anna Thompson un peu. Donc elle-même, elle dégage quelque chose de très fictionnel. Et elle est une exception dans ce milieu, quoi. Elle a une espèce de princesse au milieu du ghetto. Et puis les gars, c'est vraiment des jours et des jours passés sur la route. Et puis à un moment donné, je m'arrête là. Et puis je commence à discuter avec Manny. Et puis finalement, je vais rester un peu plus longtemps à cet endroit. Et puis on va nouer une relation plus forte. Et il y a eu beaucoup de rencontres, parce que les repérages ont duré très longtemps, mais finalement, c'est les rencontres les plus fortes qui sont restées dans le film. Et aussi celles où la relation était la plus équilibrée.
Alors on retrouve dans ce travail d'auteur, notamment la manière de filmer, peut-être de filmer quelque chose de très ancré, de très quotidien. Je pense à la scène de Manny qui se lave au jet d'eau et où finalement la caméra s'intéresse à chaque partie de son corps, aussi à ses tatouages, et où le récit se passe finalement par sa peau.
Ben, il y avait une correspondance aussi entre la peau des gens, leur physique vraiment, et l'endroit dans lequel ils vivent. Et finalement, c'est pareil pour Beverly aussi. Elle est très abîmée. Elle a cette cicatrice de la croix qu'on voit évoluer au cours du film. Et de la même manière, Manny, en fait, son corps, on dit aussi long sur lui que ce qu'il pourrait nous raconter. Et il y a vraiment une correspondance entre son corps et le paysage dans lequel il s'inscrit.
Alors, on repart du côté du village. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait où l'on retrouve Jean-Marie Barbe qui va nous parler de généalogie.
Barbe Super. Paul, Marie à Suzanne Agathe, Jean-Baptiste. Il décède en 1819, son épouse veuve avec 5 enfants. C'est mon nom qui avait fait ça.
Il y avait Jean-Baptiste, Victor, Anne, Victorine.
Barbe, Cyprien, Félix,
le Anne. Le premier. Pas un, premier.
C'est lui qui a planté les vignes, Blache.
Félix, premier. Après, il y a Cyprien.
Marié à ma grand-mère, ça c'est mon grand-père.
Cyprien II.
Ça c'est l'arrière-grand-père.
Ah, c'est l'arrière-grand-père qui a acheté Blache alors.
Ouais.
D'accord, oui. Moi je croyais que c'était le Cyprien II qui avait acheté Blache.
Non, 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 non.
Le Cyprien I.
Bon, moi il faut que je continue. Tiens, ça c'est le premier festival. C'est qui ? C'est pas Cyprien, ça non.
Ça m'a super bien.
Ah si, ça devait être Cyprien.
Claire Simon, on voit que finalement, à travers le côté innovateur et révolutionnaire qu'ont aussi les personnages du film, il y a aussi toujours ce poids du passé, ou en tout cas ce passé de référence par rapport auquel ils s'ancrent. Et il y a une dimension très importante, c'est celle d'être de Lussas ou de ne pas en être. Comment est-ce qu'on va réussir à jouer cette intégration dans le village ?
Oui, c'est la question des villages, toujours, oui. En même temps, ce qui est bien sûr, et toute la question c'est est-ce qu'on est de là ou pas, mais ce village fait venir le monde entier par les films qui viennent de beaucoup d'endroits, et mais pas seulement les films. Par exemple, le Patrice Botea, qui est l'agriculteur, se marie avec une femme chilienne. Et il y a son mariage dans la série où viennent toute la famille du Chili, plus de Miami. Et puis on s'aperçoit que les gens du vin nature vendent leur vin à Tokyo, à New York, à Melbourne, avec l'acheteur australien qui vient leur acheter du vin. Donc finalement, cette mondialisation, elle a lieu aussi dans le village.
Alors ça, c'est les bons côtés. Il y a aussi la difficulté de l'altérité.
Voilà, et la difficulté pour certains agriculteurs, par exemple, d'acheter des terres s'ils ne sont pas considérés comme du village. De la même manière, la difficulté pour le village d'accepter à la fois d'avoir le plaisir qu'il y ait des étudiants toute l'année, qu'il y ait du monde qui vienne, etc. Et puis en même temps de se dire, mais nous, on n'est pas les gens du documentaire, etc. Donc il y a ce conflit qu'on voit partout, hein, mais qui est évidemment exacerbé dans un village. Et moi, j'ai essayé dans la série de faire se rencontrer les mondes qui ne se rencontraient pas, c'est-à-dire le monde de l'agriculture et le monde du cinéma documentaire. Même si Jean-Marie Barbe, lui, évidemment, comme vous venez de le faire entendre dans cet extrait, il est extraordinaire. Que ce soit lui, le fils de l'épicière et le fils d'un agriculteur vendeur de fruits, que c'est lui qui ait fait venir le cinéma documentaire à Lussas, comme s'il avait l'intuition que le cinéma documentaire était une forme de la légende, d'une manière de légender la vie des agriculteurs aussi, quoi.
Alors il y a aussi cet idéal politique qui se trame au fur et à mesure, et les réalités aussi de ce monde politique, oui. Avec les difficultés de la négociation, ils passent leur temps à rattraper des situations qui se cassent la figure.
Oui. On voit qu'ils vont tout le temps essayer de faire les mondanités politiques pour essayer de sauver telle ou telle subvention, aide, possibilité et ça, je crois que c'était là aussi mon projet, de raconter ce que c'est que la vie aujourd'hui de n'importe quelle entreprise, et en particulier d'une entreprise culturelle qui repose quand même sur beaucoup de négociations. Et évidemment, à Lussas, la plus grande collaboration qui est si forte, c'est entre le fondateur, Jean-Marie Barbe, et le maire. Parce que sans le maire, évidemment, rien n'aurait pu avoir lieu. Le maire est vigneron, il est agriculteur, mais il a toujours cru, un, à l'agriculture, deux, au documentaire, deux, à l'idée culturelle. Et ce couple est magnifique, parce que sans ce couple, je pense que ça n'existerait pas.
Et en même temps, il y a cette espèce de grande métaphore qui traîne tout le long des deux séries du village, entre le côté instable et précaire du monde paysan et de l'agriculture au gré de la grêle qui, oui, vient bousiller les poires, par exemple, oui, qui est la même que l'économie un peu du cinéma.
Voilà, voilà. Moi, j'avais tout le temps l'impression que c'était un miroir, si vous voulez, que le monde de l'agriculture et le monde du cinéma se regardaient, puisque, au fond, les deux, ils veulent faire quelque chose qu'ils aiment, qu'ils trouvent le plus beau, et ils se battent pour trouver le moyen d'en vivre, quoi. En gros, c'est à peu près ça. Et donc, pour ça, il y a cet effet de précarité des deux côtés, et qui est aussi quelque chose qui a à voir avec le capitalisme. C'est-à-dire que chaque fois qu'on entreprend, il y a cette terreur que ça va, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, et tout le monde est pris dans ce suspense de continuellement essayer de juste de que le modèle économique marche un minimum, quoi.
Alors, est-ce que, on n'a pas beaucoup parlé de vos personnages, Claire Simon, est-ce que un film pour vous, notamment un film d'auteur, tient sur ces personnages, ou est-ce que le personnage, c'est réellement ce lieu, ou ce lieu est l'idéal qu'on y projette?
Les personnages sont dans le lieu, oui. C'est vrai que le lieu est comme un scénario, en fait. C'est-à-dire, comme ce que vous avez dit sur le motel, c'est-à-dire que la structure qui est normalement celle dans une fiction d'un scénario, c'est le lieu qui le donne, mais les personnages sont très importants. Et évidemment, dans le cadre d'une série, ils apparaissent, ils disparaissent, et là, on voit aussi deux générations. On voit ceux qui ont créés, et puis les jeunes qui sont les héritiers, alors il y a eu beaucoup de jeunes à cause de l'université, etc. La moyenne d'âge à l'USAS pendant le festival, c'est 25 ans. Ça, c'est merveilleux, quoi. C'est vraiment, il y a un engouement comme ça, très jeune. Mais il y a cette question de, est-ce que les héritiers acceptent leur héritage?
Claire Candy-Languet, on voit qu'à travers l'ambition aussi du titre Vacancy, hein, de même qu'il y a Le Village de l'autre côté, il y a la volonté aussi de filmer tout ce qui est hors champ, donc cette idée d'interstice. Finalement, c'est un film qui s'attache à des scènes d'un monde très petit, qui bouge très peu, et pourtant, c'est une écriture très visuelle. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé ce monde assez clos, assez minuscule?
Oui, alors, c'est un huis clos, en fait, le film, dans un premier temps, parce que tout se passe dans des chambres de motel qui font 12 mètres carrés. Donc le hors-champ a une place énorme, surtout au son. On doit faire, on fait exister tout ce qu'il y a autour, et surtout comment le danger est un peu permanent, et comment il y a une inquiétude qui ronge le quotidien. Il y a cette autoroute dans le fond de l'oreille qui ne s'arrête jamais, il y a des bruits au-dessus, à côté, à droite, à gauche.
La peur des intrusions dans la chambre?
La peur des intrusions dans la chambre, voilà, qui est aussi ravivée quand Beverly, elle prend de la drogue, il y a aussi des montées plus paranoïaques, quoi. Mais,
c'est la question du chez-soi qui se pose en réalité en creux. Comment est-ce que finalement, même si on arrive bon an mal an à avoir un toit, à se nourrir, comment finalement on peut se construire sans sécurité d'un abri, d'un chez-soi?
Ah oui, avec le mot américain de home, home. What is home, qui n'est pas exactement la maison, mais vraiment le chez-soi, le cocon, quoi.
Alors, est-ce que vous avez fait aussi avec cet imaginaire vagabond qui est celui de l'écriture américaine? Est-ce que vous aviez cet imaginaire hobo, beaucoup plus joyeux pour le coup, mais du nomadisme que l'on connaît dans la littérature américaine? Ou est-ce que c'était plutôt des films que vous aviez en tête?
Ouais, il y a plusieurs choses qui nourrissent le film et dont on s'irrigue. C'est à la fois du documentaire de création qui est vraiment basé sur la rencontre, comme les films de Gianfranco Rossi. Et je pensais quand même très fort à Below Sea Level, qui fait le portrait de gens qui ont rompu avec la société et qui vivent du côté de Slab City, dans un bord de désert californien. Et en même temps, formellement, je pensais aussi beaucoup à Lynch. Et l'idée, c'était de réussir à rendre compte avec les outils du cinéma de comment on perd peu à peu pied dans le réel, parce que à la fois c'est extrêmement répétitif, tous les jours on vient frapper à votre porte et c'est le check-out et il faut trouver de l'argent pour rechecking plus tard, et en même temps de cette répétition naît une perte de repères et une confusion, d'où les passages plus oniriques dans le film. Et ça, c'est comment le traduire avec les outils du cinéma.
Merci beaucoup Claire Simon et Alexandra Candy-Languet d'être venues parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vos films sont programmés au Festival de l'USAS. Claire Simon, votre série documentaire Le Village sera projetée lors de deux séances spéciales les 19 et 20 août et sera diffusée à partir du 14 septembre sur Ciné+, puis sur Tank et TV5 Monde. Quant à vous, Alexandra Candy-Languet, votre film Vacancy sera présenté dans la catégorie Expérience du regard le 20 août à l'USAS et sera également bientôt disponible pour tous les abonnés de Tank.
J'étais en train de marcher dans la rue et j'ai vu un chien.
Pourquoi le ciel est blanc? Pourquoi les gens sont noirs? Pourquoi vit-on sur terre? Pourquoi tu rêves?
les entends depuis mon lit, qui s'agitent et qui font du bruit. Dans la rue, les marteaux piqueurs ont appris une chanson par cœur. Encore un jour à la maison, je me pose un tas de questions. Je regarde mes céréales en ayant des pensées banales. À la télé, j'entends des voix. Je m'ennuie, je zappe et je snap. Qui sont ces gens pour qui je poste? Encore une journée sur la terre. Pour moi, le monde est un mystère.
Pourquoi le ski est mort? Pourquoi les dinosaures? Pourquoi vit-on sur terre? Pourquoi durer la pierre? Pourquoi j'ai mal aux dents? Pourquoi souffrir les dents? Pourquoi les sentiments? Parce que je suis comme ça. Pourquoi le ski est mort? Pourquoi les dinosaures? Pourquoi vit-on sur terre? Pourquoi durer la pierre? Pourquoi j'ai mal aux dents? Pourquoi souffrir les dents? Pourquoi les sentiments? Parce que je suis comme ça.
On écoute Catastrophe et les Kids Bruce Lee du collectif français. Catastrophe, titre composé en collaboration avec trois classes d'enfants des quartiers nord de Marseille, qui est sorti en avril dernier. Catastrophe sera en concert ce soir, le 16 août, au festival Madistan de Cadrieux, le 23 à Marseille, le 24 et le 9 septembre à Paris. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez. C'est la seconde partie de la Grande Table d'été avec pour invité la compositrice Camille Pépin. Une mezzo-soprano qui tantôt chante, tantôt déclame dans la plus grande tradition gaélique. Un piano si cher à Joyce, un violon, un violoncelle, un cor et une clarinette. Dans Chamber Music, l'ensemble Polygone fait résonner la musique de Camille Pépin dans les mots de Joyce. String in the earth and air make music sweet. Après la sortie de ce premier album, Camille Pépin présente ses œuvres au festival de quatuor à cordes du Luberon. Elle est aujourd'hui l'invitée du portrait de la Grande Table d'été.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, great was my admiration in listening to the remarks addressed to the youth of Ireland a moment since by my learned friend. It seemed to me that I had been transported into a country far away from this country, into an age remote from this age.
Bonjour Camille Pépin.
Bonjour.
On a un peu triché, hein. Là c'est pas Ulysse, c'est Ulysse justement, c'est pas Chamber Music. Chamber Music qui est le titre de votre album et qui est aussi le titre d'un recueil de poèmes de James Joyce. Alors là on entend sa voix, il en existe trois enregistrements. Ici c'est Éolienne, l'épisode Éolienne de James Joyce qu'on entend. Voilà l'épisode d'Ulysse. Vous avez choisi de répondre à cette commande.
Oui. Oui, c'est on me l'a proposé en réalité, et je ne connaissais pas du tout ce recueil avant que l'on m'en parle. Chamber Music, c'est une commande du festival Présence Féminine, et Présence Féminine travaille avec un écrivain et traducteur qui s'appelle Philippe Blanchon, qui a réalisé la traduction française de Chamber Music, et ils m'ont proposé de mettre en musique 18 poèmes de ce recueil magnifique. Et c'est vrai que quand j'ai lu le recueil pour la première fois, j'avais pas la sensation de lire un recueil de poèmes, j'avais l'impression de lire un véritable roman. Chamber Music, c'est une histoire d'amour en plusieurs parties, et c'est là où on voit tout le génie de Joyce. Je crois qu'il avait 25 ans quand il a écrit ce recueil de poèmes, il était donc très jeune, et c'est très différent d'Ulysse. Mais il y a une pensée dramaturgique, en réalité. Il a déjà construit l'œuvre comme si elle allait être mise en musique, et il voulait d'ailleurs la faire mettre en musique. Il l'avait imaginé par la voix d'un ténor. Moi, j'ai choisi mezzo-soprano, c'est une voix vraiment que je trouve tellement riche et qu'on peut décliner de plusieurs façons. On a des aigus, des graves très riches. Et puis surtout, je connais une mezzo-soprano qui est écossaise et que je sentais à merveille dans ce... dans ses poèmes, sa diction est tellement incroyable. Et pour ce recueil, voilà, il y a deux grandes parties. La première partie, c'est la naissance de l'amour entre
le crescendo.
Voilà, que James Joyce l'appelait le crescendo, et la partie décrescendo où leur amour se transforme finalement en une tendre amitié.
Alors, vous avez fait référence à l'aspect musical de la poésie de Joyce, la poésie de Joyce qui reprend la tradition plutôt gaélique à laquelle il appose l'anglais, justement. Est-ce que ça a été une découverte pour vous que de lire ces poèmes dans la langue originale, puisque vous avez choisi de les faire dire et lire et chanter en anglais?
Oui, oui, oui. C'était une découverte absolue. Et pour m'aider justement pour la mise en musique, j'ai beaucoup travaillé avec Philippe Blanchon qui a fait la traduction française. Et son aide et son soutien ont été vraiment précieux pendant la composition de cette pièce. C'est une pièce qui est très dense. Elle fait un peu plus d'une demi-heure quand même. Donc il fallait pouvoir tenir sur la durée et utiliser aussi la langue elle-même, les accents. Je trouve que c'est une langue qui est très rythmique, moi. Donc j'ai vraiment eu envie d'explorer ce côté-là. Et pendant 30 minutes, c'est pas si facile que ça. C'est vrai que quand on parle d'amour, on imagine peut-être plus des choses lentes. Mais moi, j'avais justement envie de prendre un petit peu le contre-pied de ça et puis faire des références aussi au folklore irlandais, à la danse. C'était vraiment très important pour moi et c'est ça aussi qui m'est venu en lisant le recueil, c'est-à-dire que j'avais tout un univers qui était présent. Joyce fait référence à la musique, au son des instruments. Il fait référence au son de la nature aussi, le vent. Il parle de cœur aussi qui se répondent à un moment. Il parle de harpe, il parle de doigts qui traînent sur un instrument.
Ils sont aussi une codification de la poésie gaélique, hein, oui. Et qui font référence à cet univers féerique et mythologique.
Oui, en plus, et moi c'est quelque chose dont je me sens vraiment proche. J'ai toujours imaginé beaucoup d'histoires petites. Par exemple, j'avais toujours une histoire dans la tête. On me disait souvent que j'étais dans la lune, mais c'est parce que je créais des personnages avant de créer des pièces musicales. Je créais des histoires et j'étais toujours dans mes pensées avec ça. Et là, Chamber Music, j'ai mis 6 mois pour l'écrire et pendant 6 mois, j'ai été plongée dans un univers, celui de Joyce, celui de ce recueil, et c'était vraiment une très très belle expérience pour moi.
Justement, Camille Pépin, est-ce que l'expérience musicale, elle va au-delà finalement de la musique, qu'on peut retrouver alors à la fois dans la littérature, aussi dans la danse? Je crois que pour vous, la découverte de la musique, elle s'est faite par le corps, par la danse?
Oui, c'est vrai. Mes parents ne sont pas du tout musiciens, je viens pas d'une famille de musiciens, mais j'ai commencé la danse comme beaucoup de petites filles très jeunes, la danse classique, et c'est vrai que très rapidement j'ai été fascinée par le piano qui accompagnait nos exercices, et c'est ça qui m'a donné envie de faire du piano.
Parce que c'était un vrai pianiste qui jouait aussi.
Oui, il nous accompagnait pendant les cours, je trouvais ça incroyable. En plus, il avait pas de partition. Donc moi, je me disais, mais comment il fait pour nous accompagner s'il a pas de partition? Il lit pas la musique, et donc il invente tout. Et je trouvais ça complètement incroyable.
Vous l'avez interrogé?
Oui, je suis allée le voir. Je suis allée le voir et il m'a dit, mais on apprend. En réalité, on improvise. Et puis, il y a aussi des choses que je connais par cœur. Et puis, parfois, je fais des petites variations parce que j'aime bien changer. Et c'est ça qui m'a donné envie. Et quand j'ai pris des cours de piano, après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un vrai travail de technique. Et qu'après, on pouvait s'amuser. Et moi, c'était pas monter les pièces pour les jouer à la perfection qui m'intéressait, c'était de comprendre comment elles étaient construites. Pourquoi le compositeur avait choisi cette note-là et pas une autre? Pourquoi il avait pris une mesure à 3/4 et pas une mesure à 4/4? C'est ça qui m'a... des histoires de gestes, de sensations corporelles plutôt, de ce que ça procure comme émotion aussi. Il y a des tonalités, par exemple, qui donnent pas les mêmes émotions, les mêmes sensations que d'autres. Et c'est tout ça qui m'intéressait. Et même mon professeur de piano était un petit peu fâché parfois parce que je changeais les partitions. J'avais envie d'essayer et puis je lui dis « Oh, regardez ce que j'ai trouvé, je trouve ça bien aussi. » Et très rapidement, je suis venue à la composition et c'était assez naturel. C'est juste avec... J'étais toujours, oui, dans mon imaginaire. Et avec la musique, la composition, c'était le média le plus instinctif pour moi. Plus j'écris aussi, je tiens un journal depuis des années, j'ai ce besoin de créer, mais vraiment la composition, c'est le média le plus facile pour moi.
Camille Pépin, comment est-ce que on transforme en musique, en tout cas on prolonge la musique de la poésie? C'est pas la première fois d'ailleurs que vous travaillez sur des poèmes.
Non, c'est pas la première fois. Et même parfois, j'écris aussi des pièces de musique à partir de poèmes, mais sans voix. Donc je fais chanter les instruments et
donc l'inspiration, elle vient de là, mais oui. Elle devient complètement musicale.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas toujours besoin des mots pour exprimer ce que les mots nous font ressentir justement. J'aime beaucoup cette idée de pouvoir transmettre une émotion, une sensation, une impression. Bon, c'est vrai qu'en ce sens, je pense que je me rapproche aussi des compositeurs impressionnistes. Je ne peux pas cacher que j'aime particulièrement Debussy, par exemple. Mais c'est ça qui m'intéresse et c'est ça aussi que j'aime dans la poésie. C'est ce que je ressens dans un poème, ce que j'imagine, ce que je me crée comme univers. C'est un refuge. Et chacun peut y voir ce qu'il a envie d'y voir, peut ressentir des choses différentes, un avis différent. Et
en même temps, il y a quelque chose à garder aussi parfois de ce poème-là.
Oui.
Je pense à la musique des mots de Joyce. On l'entendait déclamer au début dans une tradition irlandaise de tribun au air roulé, d'orateur comme ça. Et vous avez repris ce système un peu déclamatoire dans votre album à certains moments. Parfois c'est psalmodié et parfois c'est déclamé.
Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que commence la pièce. J'avais aussi envie d'explorer ça puisqu'il y avait certains vers qui me paraissaient pas nécessaires d'être chantés. Je me disais qu'ils ne seraient jamais plus beaux que s'ils étaient simplement déclamés. Et il y a vraiment certains vers pour lesquels c'était une évidence. Je les ai sentis comme ça. Donc je ne me suis absolument pas forcée à faire chanter la chanteuse tout le temps.
Mais vous aviez écouté de la poésie déclamée ?
Oui, j'avais écouté.
C'est des œuvres dont on dit d'ailleurs qu'elles sont faites pour être entendues et pas lues.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, et ça prend une autre dimension. Et après, c'était difficile aussi de trouver l'équilibre entre justement mettre en valeur ça... Et en même temps, laisser de la place aux instruments aussi, puisque ils sont cinq quand même aussi derrière pour les accompagner. Et j'avais aussi envie de mettre chacun autant en valeur. J'avais pas envie d'avoir uniquement la voix et puis l'ensemble qui accompagne derrière. Je voulais que chacun prenne la parole autant les uns que les autres pour justement créer cet univers.
Est-ce que ça a pris de la place, le fait que ce soit cet ensemble polygone qui joue ?
Oui, ça a pris de la place parce que c'est un ensemble avec lequel j'avais déjà travaillé auparavant. Donc je les connais très bien, je connais très bien leur façon de jouer aussi individuelle, leurs caractéristiques de sonorité. Et je savais ce que je pouvais tirer de mieux de chacun pour justement créer cet univers. Par exemple, j'étais embêtée à un moment parce que j'avais terriblement envie de d'écrire pour flûte. Je pensais à la flûte irlandaise et j'en avais pas. Et donc j'ai cherché des sonorités au violoncelle justement pour certains modes de jeu pour ressembler à une flûte. Aussi pour les instruments à cordes, pour le violon et le violoncelle, j'ai utilisé beaucoup de double cordes et des cordes à vide qui sont utilisées dans la musique traditionnelle irlandaise. Toujours pour me rapprocher de cet univers que j'avais tellement, que je ressentais en fait corporellement même.
Alors on va écouter When the Shy Star, c'est au tout début.
Oh, when the shy star goes forth in heaven, all maidenly disconsolate. Here you admit the drowsy demon, when who is singing by your gate, his song is softer than the dew.
Sacrilège, nous passons que des extraits, mais pour les commenter, Alors, vous reprenez la dramaturgie de Joyce et en même temps, vous venez changer un peu l'ordre des choses, notamment l'ordre des poèmes. Déjà, il y en a 18 et pas 32. C'est une trentaine, hein, c'est ça que,
oui, c'est ça, il y en a 32.
32. Et puis, vous décidez que peut-être la fin va se retrouver au début et vice-versa, c'est-à-dire que l'ordre n'est pas tout à fait symétrique.
Oui. En réalité, quand on, avec Philippe Blanchon, quand on a décidé, enfin, on a choisi les poèmes ensemble, les poèmes à mettre en musique, puisque je pouvais pas mettre les 32 en musique, puisqu'on m'a demandé une pièce d'une demi-heure, mais je voulais garder vraiment l'essence, enfin, les poèmes les plus importants, et avec Philippe Blanchon, on s'est rendu compte que dans la deuxième partie, donc le décrescendo, chaque poème faisait écho à un poème du premier, en suivant une forme d'arche. Ce qui est logique puisque c'est la naissance de l'amour puis son déclin. Donc j'ai fait des retours comme ça, mais je me suis retrouvée avec plus de poèmes dans la première partie que dans la deuxième partie.
Par goût, par choix, Camille Pépin.
Alors c'était un choix puisque, enfin, oui et non. Il y a eu un choix puisque vraiment on a essayé de prendre les 18 poèmes les plus importants, mais c'était très dur de les choisir parce qu'on a, enfin, ils sont tous magnifiques, donc on avait tous envie de les mettre dans cette pièce, mais ce n'était pas possible. Dans le premier, dans la première partie, je me suis retrouvée avec plus de poèmes que pour la deuxième, donc je pouvais pas faire écho à tous dans la seconde partie. Mais c'est pas grave, j'essayais du coup de donner des saveurs peut-être un petit peu plus uniques, plus particulières, parce que ça n'est qu'une seule fois, et y a pas de reprise dans la deuxième partie.
Donc vous n'avez pas choisi de reproduire cette symétrie?
Non, j'ai pas pu le faire systématiquement.
Mais parfois oui.
Mais parfois oui.
Alors la symétrie, elle est dans quoi? Elle est dans le rythme? Elle est dans le choix des notes? Elle est où?
Dans les thèmes principaux, les rythmiques principales restent. Il y a le numéro 5, par exemple, qui n'est pas repris. Là, qui est assez vaporeux et qui exprime aussi tout ce mystère qu'il y a, qui entoure ce début d'histoire d'amour, qui n'a plus lieu d'être, en fait, dans la deuxième partie, puisque l'amour est en déclin entre les deux amants.
Alors, vous parliez de l'imprégnation dans laquelle vous étiez vis-à-vis de ces poèmes pour pouvoir écrire. Est-ce que c'était une imprégnation exclusivement littéraire qui vous a permis de garder, Camille Pépin, votre liberté de création musicale, ou est-ce que c'était une imprégnation aussi sonore?
C'était les deux.
Qu'est-ce que vous avez écouté alors?
J'ai écouté de la musique traditionnelle irlandaise, beaucoup. J'en écoute régulièrement, donc c'était pas propre vraiment à la composition de cette pièce. J'ai écouté beaucoup de musique de danse. J'ai écouté beaucoup de musique pour violon solo, par exemple. Et je me suis pas cantonnée uniquement à l'Irlande. Je suis aussi allée écouter des musiques indiennes pour avoir ce côté modal aussi à l'esprit et, que j'aime particulièrement dans la musique de Bartok aussi, par exemple. Et je pense que ça s'entend aussi dans Chamber Music.
Alors, Joyce lui-même a soutenu un ténor qui s'appelait John O'Sullivan. Il était l'un de ses mécènes d'une certaine manière. Il était lui aussi très musicien et très mélomane. Oui. Il avait d'ailleurs plus ou moins essayé d'adapter certains de ses poèmes en musique. Alors, on va écouter ce bid adieu, justement, de Joyce. Camille Pépin, ce n'est évidemment pas Joyce qui chante, mais c'est son poème et paraît-il un air qu'il aurait composé, arrangé par Edmund Paddleton et interprété par Giorgio Joyce, son fils. Est-ce qu'un enregistrement qui a été fait en tout cas en 1949 sur la BBC, le connaissiez-vous? Est-ce que vous êtes renseigné sur ses activités privées de Joyce, qui était lui-même pianiste à 16 heures et chantait pour faire plaisir à ses amis lors de petites fêtes qu'il donnait chez lui?
Alors, je savais qu'il faisait ça, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'entendre ses compositions. C'est très étonnant de l'entendre après coup. En même temps, je pense que c'est mieux que je ne l'ai pas entendu avant, puisque j'aurais forcément été tentée de faire la même chose pour lui rendre hommage quelque part. Donc tant mieux, mais j'entends ça avec beaucoup d'émotion et c'est marrant, mais j'entends tout de suite ce qui ressemble et ce qui diffère. Je trouve que dans la prosodie, il y a des choses qui se ressemblent, et dans l'univers qu'il y a derrière, là après c'est aussi différent, il n'y a qu'un piano derrière qui doit créer tout l'univers à lui tout seul, alors que moi c'est vraiment le mélange des instruments entre eux qui crée la magie. Et je trouve ça plus dur, l'exercice d'avoir uniquement un piano.
Alors comment est-ce que vous les imaginez justement, ces instruments? Est-ce que ce sont comme des interprètes, comme des comédiens sur scène, des personnages qui auraient leur propre langage, Camille Pépin?
Je les imagine vraiment comme illustrant, représentant les mots eux-mêmes. C'est... La façon dont je mélange les instruments, je fais beaucoup d'alliages de timbres. C'est-à-dire que s'il manque, ils sont cinq, s'il en manque un, ça ne marche plus. J'aime vraiment tellement les mélanger. Je les mélange à deux, à trois, trois plus deux, quatre plus un, pour toujours soutenir la voix. Et c'est pas forcément ce qu'on remarque vraiment à l'oreille quand on écoute les extraits, mais il y a toujours un instrument qui double la voix. Alors pas exactement à la même hauteur, mais parfois il double juste partiellement pour donner encore plus de corps à tout ça. Moi c'est ça que j'aime faire, et c'est pas propre à cette pièce, c'est mon langage qui est comme ça.
Alors, c'est une importance que vous donnez particulièrement à la voix, comme un trait noir autour d'une forme en peinture.
Oui, et pour souligner certaines choses, parfois pour des soucis de balance aussi. Par exemple, quand la voix de la mezzo-soprano va dans le grave, on peut perdre un petit peu en volume sonore. Donc d'avoir juste le violoncelle qui souligne quelque chose dans le grave, ça peut donner l'impression que la voix est toujours aussi présente, alors qu'en fait, non. Ce sont des petites manières de tricher quelque part, mais que j'aime beaucoup faire. Ça m'amuse beaucoup de faire ça.
Comment est-ce que vous rentrez justement dans cet alliage avec cinq instruments, alors qu'à d'autres moments, vous composez aussi pour des orchestres? Vous ne faites pas que de la musique de chambre.
Et justement.
Il y a un travail d'adaptation à chaque fois, au format et aux différents types d'instruments qu'il faut avoir dans l'oreille?
Oui, et donc... Quand on passe des commandes, on me donne l'effectif pour lequel je dois faire. On me dit, vous allez écrire une pièce pour violon et piano, vous allez écrire une pièce pour orchestre. Mais moi, j'ai beaucoup fait d'orchestration et j'ai toujours été fascinée par l'orchestre aussi. Je pense que ça vient justement du fait que je sois pianiste et que j'ai été privée d'orchestre pendant ma formation.
Parce que c'est l'instrument qui veut ça.
Voilà, c'est un instrument soliste, et ce que je n'aime pas d'ailleurs, mais j'aurais jamais voulu être soliste. Et j'allais petite aux répétitions d'orchestre, je me mettais dans l'orchestre pour écouter. Puisque ça me fascinait complètement. J'écoutais aussi beaucoup de musique de film. Et j'ai donc beaucoup pratiqué l'orchestration. Et à chaque fois que je dois écrire une œuvre de musique de chambre ou une œuvre soliste, moi, je l'imagine pour orchestre. Mais c'est spontané. Je veux dire, c'est pas une contrainte que je m'impose. J'imagine l'orchestre, sont les couleurs de chaque instrument qui me guident, qui me donnent des idées. Tout à l'heure, je disais que dans Chamber Music, j'avais envie de flûte. C'est venu comme ça, et il me fallait une flûte, donc j'ai trouvé des moyens
de remplacer la flûte.
Voilà, de remplacer la flûte alors qu'il n'y en avait pas. Et c'est vraiment toujours comme ça que je crée mes univers, mes sonorités. Je pense que c'est un paramètre important dans mon langage musical.
Et pourtant, il y a un moment dans Chamber Music où, de même que l'amant se retrouve un peu seul, c'est aussi le cas de l'instrument, et notamment du violoncelle. Je vous propose d'écouter Kono Hana.
Dupin, là, il s'agit de tout autre chose, puisqu'il y a un moment où le violoncelle est seul.
Oui. Oui, cette pièce, c'est une pièce qui date de 2016, je crois, donc je l'ai écrite en 2015, c'était une de mes premières œuvres. Et c'était, je me souviens que j'étais paniquée quand on m'a demandé d'écrire cette pièce parce que j'avais qu'un seul instrument. Et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je n'ai qu'un seul instrument. Mais c'était un très bon exercice parce que ça m'a poussée à chercher des sonorités auxquelles je n'aurais pas pensé moi spontanément.
Il fallait que lui soit plusieurs en fait.
C'est exactement. Et pour cette pièce, donc Konohana, je me suis inspirée de la déesse du cerisier dans la mythologie japonaise. Et j'ai imaginé un cerisier en plusieurs états. Et j'ai découpé la pièce en plusieurs petites parties, ce que je fais rarement, mais pour pouvoir explorer différents modes de jeu. Et je me suis évidemment inspirée des sonorités des instruments traditionnels japonais. Donc il y a un passage où je m'inspire de la sonorité de la flûte shakuhachi. Il y a un passage percussif où je m'inspire des tambours taiko. Il y a aussi un passage en pids, donc quand la violoncelliste pince les cordes. J'avais à l'esprit le chamisone, qui est une sorte de luth, justement, à trois cordes, donc ce sont que des accords à trois sons. Moi qui d'habitude en mets 3, 4, 5, c'est tout ça qui m'a guidée aussi. Après, j'ai aussi essayé d'imiter le vent dans les feuilles par un mode de jeu, avec le mode de jeu des harmoniques. Enfin,
Alors, vous évoquez les feuilles, justement, il y a cette création mondiale de feuilles d'eau de Sylva Kahn que vous allez justement présenter au festival de quatuor à cordes du Luberon, en un mot, puisqu'on ne la connaît pas encore, cette création.
Oui, je ne l'ai jamais entendue moi-même, donc à part dans ma tête.
Peut-être quelques mots sur ce projet.
Oui, Feuille d'eau de Sylva Kahn, donc c'est une commande pour le quatuor Aurine, donc qui fera la création le 25 août. Je me suis inspirée de deux choses pour cette pièce. La première, c'est le lieu où aura lieu la création, l'abbaye de Sylva Kahn, parce que les feuilles d'eau sont des motifs ornementaux assez sobres qui ornent les colonnes des abbayes cisterciennes typiques du XIIe siècle, comme l'abbaye de Sylva Kahn. Et j'avais déjà imaginé avec ce motif très sobre un matériau musical sobre et organique que je pourrais transformer tout au long de la pièce en cherchant des sonorités différentes au quatuor. Et je me suis aussi inspirée d'une toile qui s'appelle Feuille d'eau de Sylva Kahn de Fabienne Verdier, une artiste que j'aime vraiment beaucoup. C'est une série de 6 toiles représentant 6 feuilles d'eau avec de l'encre noire qui est diluée. Donc moi, ça me donnait des envies de matière, de texture que j'ai voulu reproduire avec le quatuor à cordes.
Alors n'en dites pas trop, on va le découvrir. On entend String in the Earth and Air et on va se quitter là-dessus. Merci.
Merci
Camille Pépin d'être venue aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre album Chamber Music. Certaines de vos œuvres seront donc présentées les 22 et 25 août au Festival de Quatuor à cordes du Luberon, dont cette création Feuille d'eau de Sylva Kahn. Je vous donne rendez-vous lundi à 12h45 pour une nouvelle grande table d'été consacrée à Rebecca Horn, exposée au Centre Pompidou-Metz, et en seconde partie à l'écrivain irlandais Donal Ryan. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Alexandra Brouillet, Jeanne Copé, Lou le Joli, Lou Quevauvilliers et Julien Rosa, à la réalisation Laure Chastan, à la technique Jean-Guilain Meige. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.
France Culture, l'esprit d'ouverture.